Europe 1.
Frédéric Ancel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géopolitologue. Les voies de la puissance, votre dernier livre est paru chez Odile Jacob. Alors, Volodymyr Zelensky voudrait absolument que le missile tombé en Pologne cette semaine, qui a fait 2 morts, soit un missile russe. Le secrétaire général de l'OTAN et le président polonais ont eu beau lui dire que ce n'était pas le cas, qu'il s'agissait d'un accident malheureux dû à la défense anti-aérienne ukrainienne. Il s'est entêté, un peu à la Donald Trump, au risque de perdre un peu de sa crédibilité. Comment l'expliquez-vous?
Je l'explique par deux raisons, d'ailleurs très très compréhensibles. La première raison, c'est qu'il est toujours très malvenu et un petit peu ridicule de constater que c'est son propre matériel ou ses propres hommes qui se sont trompés. Alors c'est d'autant plus vrai que là, ça s'est abattu sur la Pologne, un État ami et allié, sans doute le meilleur ami en fait de l'Ukraine, et que ça a fait des morts. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est celui concernant la stature, en quelque sorte, de résistance face à la Russie. C'est-à-dire qu'en fait, Zelensky, depuis le 24 février dernier, joue alors un rôle parfaitement compréhensible et tout à fait légitime, mais il le joue, et peut-être même qu'il le surjoue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui pose problème provient nécessairement de la Russie. Et de ce point de vue-là, il y a effectivement un risque pour lui de voir même ses alliés et fournisseurs finir par s'agacer parce que on est dans une posture qui là, si on l'avait écouté ces derniers jours, une posture qui aurait pu être extrêmement dangereuse et mener à une escalade.
Oui, il a réclamé que des spécialistes ukrainiens soient associés à l'enquête internationale menée en Pologne et que lui-même ait accès à toutes les données recueillies, ce qui laisse entendre qu'il n'a pas confiance dans l'enquête pourtant menée par l'OTAN, par la Pologne, par les États-Unis et par d'autres pays européens. Il nous soupçonne en fait de vouloir disculper la Russie pour ne pas avoir à la combattre.
Voilà, c'est ça. En fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a affaire à un Zelensky qui fait confiance aux armes qu'on lui donne, généreusement, mais qui ne ferait pas confiance aux enquêteurs chargés de statuer sur un missile qui, manifestement, très manifestement, est ukrainien. Alors, encore une fois, après, la toile de fond, si vous voulez, c'est quand même celle d'un chef d'État et de gouvernement qui doit, notamment vis-à-vis de sa propre population, donner systématiquement des gages de force, de résilience, voire de jusqu'au boutisme.
Cela dit, il a peut-être raison, Zelensky. Imaginons que les Russes aient envoyé accidentellement un missile en Pologne. Est-ce que ça mériterait, même s'il y a eu 2 morts, de nous entraîner dans une nouvelle guerre mondiale? On aurait certainement la tentation de passer sous silence le fait qu'il est russe et de dire qu'il était ukrainien.
Si un missile tombe par accident, comme vous l'avez bien suggéré en Pologne, donc sur un territoire de l'OTAN, on ne va pas aller à l'escalade, c'est une certitude. Il faut bien évidemment qu'il y ait intentionnalité, autrement dit agression au sens étymologique du terme, pour qu'à ce moment-là, l'article 4 et peut-être l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord qui prévoit les conditions d'entrée en guerre puissent être enclenchées. Il est bien évident qu'un pauvre missile tombant seul par accident, même s'il était russe, évidemment, n'aurait rien enclenché du tout.
Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intérêt de l'Ukraine, c'est que l'OTAN entre en guerre à ses côtés contre la Russie. Or, si la Russie attaquait la Pologne, membre de l'OTAN, eh bien les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et le reste des pays de l'OTAN se retrouveraient par le jeu des alliances militaires automatiquement en guerre contre la Russie. Donc il faut que ce soit dans l'esprit de Volodymyr Zelensky et d'une bonne partie de la population ukrainienne, il faut que ce soit un missile russe. C'est pour ça que le président ukrainien insiste. Au fond, il veut nous forcer à devenir co-belligérants.
Je pense que c'est exactement cela. Je pense même que la Pologne, qui là a été extrêmement responsable et prudente, mais je pense que la Pologne et les 3 États baltes qui se représentent comme étant d'État du front et qui ont une géographie et une histoire dont il faut bien reconnaître qu'elles sont extrêmement douloureuses avec la Russie et multiséculaires, veulent précipiter les choses et accroître l'aide à l'Ukraine et gêner le plus possible la Russie qu'elle considère, que ces pays considèrent comme une puissance extrêmement hostile. J'ajouterais quand même que c'est de bonne guerre, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que Zelensky, malgré tout en droit international, est le chef d'un État qui a été agressé le 24 février dernier et qui est en guerre depuis. Donc, si vous voulez, c'est pas très étonnant. Oui, on est dans une posture, bien sûr, il le surjoue, mais c'est pas très étonnant qu'il le fasse. Je suis à peu près convaincu qu'à peu près n'importe quel autre chef d'État et de gouvernement jouerait s'inscrire dans cette posture-là.
Churchill l'a fait en 1940 avec les États-Unis. On fait une pause, Frédéric Ancel, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Frédéric Ancel ce matin, l'auteur des Voix de la puissance. Volodymyr Zelensky, puisque c'est lui qui nous occupe, ça n'est pas la première fois qu'il prend des libertés avec la vérité. Ça s'appelle au fond de la propagande, hein. C'est la guerre, on fait de la propagande. On se souvient qu'en mars dernier, dans un message en vidéo à l'Assemblée nationale, il avait comparé la bataille de Mariupol à la bataille de Verdun, alors que cela n'avait strictement rien de comparable. Et il n'a cessé de répéter que nous étions les prochains, qu'après l'Ukraine, la Russie allait envahir l'Europe, comme si elle en avait les moyens, et que nous ne disposions pas d'armes nucléaires pour nous protéger. Mais bon, on voit bien que sa stratégie est toujours la même, nous faire entrer en guerre à ses côtés. C'est pour ça que je citais Churchill juste avant la pause. Churchill n'avait qu'un souci en 1940, c'était de faire entrer les États-Unis dans la guerre à ses côtés contre l'Allemagne nazie.
Là encore, je parlais de posture tout à l'heure, Zelensky, il a nécessairement besoin de rompre l'isolement stratégique. Parce qu'au fond, l'Ukraine, et c'est bien quelque part son drame, et c'est l'une des illustrations et peut-être même des causes du conflit, l'Ukraine n'appartient à aucun système d'alliance. Absolument aucun. Non seulement, on le saura, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, mais l'Ukraine n'est même pas signataire d'un traité militaire bilatéral avec n'importe lequel des autres 192 États représentés à l'ONU. Donc aujourd'hui, depuis le 24 février, en tout cas, il est en guerre ouverte contre la Russie. Bien sûr qu'il cherche à aggraver, par ailleurs, une agression et une guerre qui est déjà extrêmement grave, et à survictimiser en quelque sorte son statut et celui de son pays pour obtenir à la fois des gains et des avantages politiques et militaires. D'ailleurs, il en a déjà reçu un avec cette promesse de la part de l'Union européenne, donc là c'est pas l'OTAN mais c'est l'Union européenne, ce qui n'est pas négligeable, vous en conviendrez, de l'adhésion future de l'Ukraine. Donc, encore une fois, c'est une posture qui est très compréhensible.
On dirait cependant qu'il y a ces derniers temps un divorce entre Volodymyr Zelensky et les pays occidentaux qu'il ravitaille en armement, notamment avec les États-Unis. Le président ukrainien parle de reconquérir la Crimée, annexée illégalement par les Russes en 2014. Les Américains n'ont pas l'air d'accord.
Hein. Ah ben non seulement les Américains ne sont pas d'accord, mais les Européens ne sont pas non plus, ou plus précisément, on n'est pas d'accord pour risquer l'escalade et la fameuse co-belligérance. Au fond, le problème n'est pas la Crimée. Je vais vous dire franchement, je pense que le citoyen américain de l'Arizona ne saurait pas la mettre sur une carte, s'en fiche complètement de la Crimée. Si tant est que les Ouest-Européens savent à peu près où la mettre. En revanche, on sait de manière extrêmement claire que c'est une ligne rouge absolue, non seulement pour Poutine, mais pour l'ensemble des nationalistes russes et peut-être même pour une grande partie de la population russe. On rappellera que depuis au moins l'éviction des Tatars par Staline en 1944, la péninsule elle est habitée par 90-92% de Russes. Je ne parle pas de Russophones, je parle de Russes, et que c'est la raison pour laquelle en 2014 il n'y a pas eu un seul coup de feu. Donc la Crimée, depuis un peu plus de deux siècles, a été conquise et sous la souveraineté depuis un peu plus de deux siècles, sous les différents régimes qui se sont succédés à Moscou, notamment pour y placer la fameuse escadre des mers chaudes. La Crimée ne sera pas négociée par Moscou. Ça, c'est, on le sait. Autrement dit, lorsque Zelensky, et là encore, il est dans son droit international depuis 91, dit mais de toute façon on ne se contentera pas de revenir aux lignes du 24 février 2022, mais nous reconquérerons l'Est du Donbass et la Crimée. On ne le veut pas, ce n'est pas possible et on ne le laissera pas faire. Et depuis le printemps dernier, il y avait déjà des négociations. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus ouvert, mais je puis vous affirmer que dès le printemps dernier, les Américains et les Ouest, je parle des Ouest européens, je ne parle pas de la Pologne, les Ouest européens avaient déjà signifié à Zelensky qu'on l'aiderait, mais certainement pas pour franchir cette ligne rouge absolue qu'est la Crimée.
On en revient donc à la position d'Emmanuel Macron depuis le départ. Hein. Il a toujours dit qu'il faudrait un jour ou l'autre s'asseoir à une table de négociation avec les Russes. Et il était le seul. Est-ce que les Américains sont en train de le rejoindre ?
Les Américains se rapprochent d'une position qui est moins jusqu'au boutiste qu'au printemps dernier, pour la raison qu'on a vu, c'est cette fameuse ligne rouge sur la Crimée. Et par ailleurs, puisque vous l'avez cité, et sans aucun chauvinisme, j'ai toujours considéré que la position française était la bonne. Celle de l'équilibre entre, d'une part, donc la non-co-belligérance, ça on est bien d'accord, et d'autre part, l'aide à l'Ukraine, ne serait-ce que pour dissuader d'autres chefs d'État et de gouvernement, pas forcément russes après Poutine d'ailleurs, mais ailleurs sur la planète, qui souhaiteraient aller vers un aventurisme militaire sans risquer quoi que ce soit. Donc il faut être à minima, dissuasif. Mais il faut négocier. À terme, on n'aura pas le choix. À l'est de l'Europe et de l'Ukraine, il y a un très grand pays qui s'appelle la Russie et qui sera toujours là.
Mais est-ce que Zelensky peut se le permettre ? Et la question est la même pour Vladimir Poutine. Les deux peuvent-ils se permettre de négocier, donc de faire un compromis ?
Un compromis, oui, mais sur quelle base ? Et là, évidemment, je rejoins ce qui sous-tend le pessimisme ou le réalisme qui sous-tend très bien votre question. C'est-à-dire que Poutine, on l'imagine très très mal se retourner vers sa population, avec entre 50 et 100 000 morts et une économie par terre, pour rien. Et non seulement rien, d'un point de vue territorial et politique, puisque Zelensky était toujours au pouvoir, alors que c'était l'objectif principal, c'était quand même de chasser ce pouvoir prétendument nazi. Mais en plus de ça, il négocierait la Crimée. Non, mais écoutez, c'est pas imaginable. Maintenant, du côté de Zelensky, si un jour Poutine daigne, ce dont je doute, affirmer ourbi et torbi que, voilà, dorénavant sur les bases de ce qui existe sur le terrain, sur le front, eh bien, il accepte un cessez-le-feu définitif, je crois que ce jour-là sera un jour noir pour Zelensky. Parce que vis-à-vis de sa propre population, hein, c'est symétrique, et pour des mêmes raisons, et notamment vis-à-vis de ses nationalistes, qui sont nombreux et qui n'ont pas toujours beaucoup d'humour, hein, non plus, en Ukraine, il ne pourra pas justifier a posteriori d'avoir tenu bon et d'avoir exigé et obtenu des efforts très importants de la population, avec aussi sans doute plusieurs dizaines de milliers de victimes, pour quasiment rien finalement, et en tout cas pour ne pas récupérer les territoires internationalement reconnus à l'Ukraine. Donc je pense que pour l'instant, et l'hiver venant, qui va geler sans mauvais jeu de mots les choses, hein, je pense que de toute façon, on empêchera, les Occidentaux, les Ouest-Européens et les Américains empêcheront Zelensky de poursuivre toute quête ou reconquête de certaines zones, et notamment de la Crimée.
Merci Frédéric Ancel. Je renvoie à votre livre, hein, Les Voies de la Puissance. C'est paru chez Odile Jacob. On fait une pause, on se retrouve tout de suite après avec Alice Ekman. On va parler de la Chine.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.